les jardinières.
Bon réveil en compagnie des jardinières, il est 7h passées de quelques minutes. On est ensemble jusqu'à 8h avec vous Mylène, bonjour.
Bonjour Noëlie, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Notre invité ce matin est dorénavant un habitué de l'émission, Christophe Boischat, bonjour.
Bonjour à toutes et tous.
Vous êtes paysagiste et propriétaire de Jardin Conseil au Noirmont. Ce matin, nous allons nous intéresser à une question presque sociologique. Pourquoi et comment l'entretien de nos extérieurs a-t-il changé au fil des décennies ?
Bah oui, parce que les jardins d'aujourd'hui ne ressemblent plus forcément à ceux que l'on créait il y a 20 ou 30 ans. Les attentes ont évolué, les habitudes aussi. C'est le sujet qui nous occupera ce matin. Soyez les bienvenus.
7h, 8h, les jardinières.
Christophe, avant de nous plonger dans l'histoire, retour au présent. Nous sommes à la mi-juin, les jardins sont magnifiques en ce moment. Alors, quelles sont les principales tâches à effectuer ces prochains jours ?
Oui, c'est vrai que les jardins commencent à... On a eu du chaud, on a eu de la pluie, on a eu de nouveau un petit peu de froid, mais là, je crois qu'on tient le bon bout. Déjà, d'une part, des temps très raisonnés, parce que si on va vers des périodes de chaud et sec, bah, c'est bien de penser à laisser nos gazons un peu plus haut. Les travaux de désherbage commencent puisque tout pousse. Et penser à des arrosages assez profonds, c'est-à-dire arroser moins souvent, mais plus. Et puis, on peut commencer un petit peu à tailler les arbustes qui ont défleuri, les fleurs fanées des rosiers, etc. Et puis, au niveau des légumes, bah, y a le tuteurage qui va commencer avec les tomates, les concombres qui commencent à pousser, qu'il faut attacher. Et puis, on peut surveiller un petit peu les maladies, gratouiller un petit peu la terre pour laisser rentrer l'eau et aérer. Donc, voilà un petit peu... les travaux actuels.
Merci beaucoup Christophe, vous restez avec nous jusqu'à 8h. En deuxième partie de l'émission, vous répondrez à nos questions, enfin celles des auditeurs. Vous pourrez appeler et parler en direct avec notre invité au 0900 70 20 20. Vous pouvez aussi envoyer un SMS en tapant le mot jardin suivi d'un espace, de votre question et de votre nom. Vous envoyez tout ça au 939 ou alors vous pouvez remplir le formulaire disponible sur notre site avec la possibilité de joindre une photo.
Juste après la musique, place à l'évolution de nos jardins. Comment étaient-ils conçus autrefois et pourquoi changent-ils aujourd'hui ? Restez avec nous.
7h, 8h, les jardinières.
Nous sommes en compagnie de Christophe Boischat, paysagiste au Noirmont. Ce matin, on ouvre le chapitre théorique des pratiques d'hier à aujourd'hui. Alors Christophe, si on remonte 20 ou 30 ans en arrière, à quoi ressemblait le jardin typique dans nos régions ?
Alors, ça ne rajeunit pas tout ça, mais c'est vrai que les jardins typiques, c'était souvent des grandes pelouses, donc des énormes gazons, des haies de tuya qui fermaient les jardins, des massifs de fleurs annuelles qui sont remplacées chaque année, des potagers, des jeux pour les enfants, et puis plutôt un jardin vitrine, et souvent des jardins avec quand même passablement d'entretien et de soins à apporter.
Comment est-ce que vous expliquez qu'on puisse trouver jadis ce genre d'aménagement systématiquement ou presque autour des maisons ?
C'est un peu un effet de mode, l'imitation du voisinage, c'est-à-dire que tout le monde voulait un peu son jardin un peu typique, c'était plus ou moins toujours les mêmes. On avait des terrains qui étaient aussi plus grands, des parcelles souvent, en tout cas le double de ce qu'on peut voir maintenant au niveau des parcelles de terrain des villas. Et puis peut-être aussi, en général, je dirais que les gens avaient plus de temps disponible pour s'occuper de leur jardin. On n'avait pas trop de contraintes par rapport à l'eau. Et puis pour Liège, je dirais qu'on recherchait vraiment cette intimité, donc à un petit peu s'enfermer dans notre jardin.
Christophe, depuis vos débuts dans le métier, qu'est-ce qui a le plus changé dans les demandes de vos clients ?
Ben, c'est surtout moins d'entretien. C'est une phrase qui est assez récurrente, que ce soit pour un couple de la trentaine qui travaille beaucoup ou des personnes âgées qui ont un petit peu moins de la pêche, on va dire, pour s'occuper du jardin. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, ben, la biodiversité, ce qui me plaît assez, ben, maintenant, on est orienté beaucoup biodiversité. Le confort aussi, la gestion de l'eau. Et puis l'ombrage, parce qu'on a des étés des fois plus chauds, puis c'est vrai qu'on cherche un peu plus d'ombrage et des jardins qui sont aussi durables et plus naturels.
Est-ce que selon vous, le manque de temps, hein, vous en parliez tout à l'heure, peut jouer peut-être un rôle important dans cette évolution?
Oui, tout à fait. C'est clair que le rythme de vie, le fait d'avoir plusieurs activités, des week-ends chargés, ça joue un rôle vraiment très très important dans l'évolution des jardins.
Christophe, vous en avez parlé en début de ces fameuses haies de thuya. Elles étaient très populaires à l'époque et puis maintenant on essaye plutôt de les retirer. Mais pourquoi ?
Alors moi, ça fait déjà plus de 30 ans que j'essaye de les retirer, mais mais c'est vrai que les haies thuya, bah, c'est déjà de un une catastrophe écologique parce que finalement, ça apporte absolument rien. À part peut-être des nids acariens, mais il n'y a aucune biodiversité, ça ferme, ça vieillit mal, donc au bout d'un certain nombre d'années, il faut de toute façon un petit peu les finir par les enlever. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est, je dirais, qui est à abolir. Et puis c'était une mode, hein, finalement. Ça se vend encore un peu, mais c'est bien si on arrive à... Il y a déjà quelques communes qui ont décidé de les enlever. Et qui financent aussi même dans certaines communes, c'est intéressant peut-être de parler de ça, qui peuvent participer à l'arrachage et à la plantation d'une haie vive à la place d'une haie thuya.
Beaucoup de jardins ont aussi été conçus pour des familles avec enfants, mais un jour les enfants grandissent et quittent le nid. Alors que devient le jardin après leur départ ?
Ben déjà souvent, ben c'est des choses qui reviennent, de supprimer ces places de jeu qui sont aussi devenues un peu vétustes. Donc des fois de les garder, ben ça peut même être dangereux. Et puis on a des jardins qui sont plus axés sur la détente, avec peut-être des endroits avec transat ou un petit spa ou d'autres choses du style. Et puis terrasse. Et puis des accessibilités un peu mieux dans le jardin, un jardin qui est plutôt orienté pour le plaisir et la détente.
Merci Christophe, on va se retrouver après une petite parenthèse musicale. On parlera notamment du potentiel lien entre changement climatique et changement d'habitude dans nos jardins.
7h, 8h, les jardinières.
On est toujours avec Christophe Boischat, paysagiste au Noirmont. Ce matin, on prend du recul sur notre manière de soigner notre jardin. Les habitudes évoluent. On fait un petit tour d'horizon sur ce qui a changé en une génération.
Christophe, parlons maintenant du climat. Est-ce que les changements que nous observons influencent réellement la manière d'aménager notre jardin ?
Oui, bien sûr, parce qu'on a quand même des périodes de sécheresse, donc voilà, faut adapter. Sécheresse, grande chaleur, on a des fortes pluies. Et puis c'est vrai que du coup ça devient important le paillage, l'ombrage, puis de récupérer l'eau.
Vous en avez parlé brièvement à l'instant. Quelles sont ces nouvelles demandes liées aux préoccupations justement du changement climatique ?
Ben, on commence à avoir des demandes pour des citernes pour récupérer les eaux de pluie, pour arroser nos potagers ou même nos massifs plantés, d'avoir des végétaux plus résistants, plus adaptés à ces climats secs. Et puis de mettre aussi des grands arbres pour prévoir des ombrages pour plus tard. Et vraiment, la gestion des eaux, elle devient même maintenant prise en compte pour l'aménagement de quartiers carrément. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment à l'ordre du jour, on va dire.
Christophe, les grandes pelouses sont souvent citées comme un exemple de ces fameux changements. Alors pourquoi est-ce qu'elles deviennent parfois moins adaptées aux usages actuels ?
Parce qu'elles deviennent moins utilisées et puis c'est vrai que y a une forte demande en eau, en tonte, donc c'est un coût d'entretien quand même relativement élevé. On a une biodiversité qui va être faible, donc on va privilégier maintenant des gazons fleuris ou des zones en prairies fleuries plutôt qu'avoir des énormes pelouses sur toute une grande surface.
On va donner un autre exemple, Christophe, d'une chose qui a changé au fil des ans, les massifs qui demandent beaucoup d'entretien. Est-ce un regret fréquent de les avoir installés dans le passé ?
Alors un regret, non, parce qu'ils ont fait leur temps, mais c'est vrai que un massif, je pense à un massif de fleurs annuelles où on va remplacer, où on va aussi mettre des fleurs à l'automne, je pense à des pensées avec les tulipes, et puis après on arrache tout, et puis on passe à des plantations de fleurs annuelles, ben là maintenant on va peut-être les garder ces massifs, mais plutôt les adapter, et puis mettre des plantes vivaces qui demanderont moins d'entretien, moins d'arrosage, et puis qui vont rester là finalement durant des années.
Et Christophe, en général, quels sont les aménagements que les gens regrettent le plus souvent après quelques années? Pas forcément de plantation, mais ça peut être une construction qu'on a fait dans le jardin.
Ouais, alors il y a construction, on pourrait dire, des bassins, hein, des styles fontaines qui ont été bétonnés, puis après faut tout se fissure, il faut tout casser, remplacer, etc. Donc ça, c'est peut-être un peu compliqué. Après, au niveau de la végétation, bah, les fameuses haies de tuya qui, finalement, le jour où on doit les enlever, c'est quand même des gros travaux et puis c'est assez contraignant. Les grandes pelouses, je dirais que oui et non, parce qu'on peut quand même un peu les transformer. Mais ce qu'on voit le plus fréquemment, c'est les arbres mal placés. Typiquement, un truc qui revient beaucoup dans la région, c'est les sapins qui ont été plantés beaucoup trop proches d'une façade et puis qui finissent par soulever un mur. Enfin voilà, ça c'est vraiment les arbres mal placés, je dirais que c'est l'élément le plus fréquemment vu.
Et Christophe, ces arbres mal placés, est-ce qu'ils sont voués à la coupe ou on a une solution pour se dire, bon, ça fait 30 ans qu'il est là, ça serait quand même dommage de le dégager?
Suivant où ils sont placés, on n'a pas d'autre choix que de le couper, hein. C'est un peu dommage, mais c'est vrai que si on est trop près d'une construction, c'est compliqué. Un arbre qui a, je dirais, plus de, à partir d'une dizaine d'années, même 20, 30 ans, c'est quasiment impossible de le transplanter. Donc, on n'a pas d'autre choix que de le couper.
Est-ce que vous diriez, Christophe, qu'aujourd'hui, peut-être, on recherche davantage la simplicité ou alors on envisage les choses sur le long terme plus qu'auparavant?
Ben, je dirais que ça dépend un petit peu des cas, mais on essaye en tout cas, nous, de guider en tant que paysagiste nos clients à voir un petit peu le long terme et puis à réfléchir déjà à l'avenir du jardin. Et c'est vrai que quand on plante, typiquement un jardin, on a des fois la sensation que c'est un peu vide, mais finalement il faut penser à ce qui va se passer plus tard, à comment il va évoluer, et puis ça c'est des choses qu'on doit vraiment prendre en considération dès le départ.
Merci beaucoup Christophe, on va se retrouver après un peu de musique, la météo et l'inforoute, et on va parler entre autres des grandes tendances actuelles de ce jardin idéal de 2026, et puis vous prendrez aussi le temps de répondre aux questions de nos auditeurs. À tout de suite.
7h, 8h, les jardinières.
7h44 chez les jardinières, on arrive gentiment au terme de notre émission. Place aux questions que vous nous avez envoyées durant toute cette semaine, soit via les formulaires que vous trouvez sur notre site ou alors par SMS. Hein, vous pouvez toujours nous transmettre votre question en tapant le mot « jardin » au début du message. Laissez un espace suivi de votre question au 939. Et on débute par une première question de Roland de Tramelan, Mylène.
Oui, on a reçu via le formulaire sur notre site des photos des pommiers de Tramelan, de Roland de Tramelan, pardon, je vais y arriver, qui nous dit « Bonjour, nous avons planté deux pommiers l'automne passé qui ont donné bien des fleurs ce printemps. Les branches n'étant pas très solides encore, faut-il déjà enlever les petites pommes ?» Donc il a envoyé ces photos que vous avez pu voir, Christophe. Alors c'est vrai qu'on voit ce petit pommier, tout petit, mais avec tellement de pommes dessus. Alors comment bien faire pour avoir des pommes et un pommier qui vit longtemps?
Voilà, mais c'est intéressant. Et je pense que pour les auditrices et les auditeurs, il faut dire que ces pommiers, ils sont relativement petits et jeunes. Et ce qui est important, c'est de penser, souvent on plante un pommier, forcément on veut des pommes, mais les premières années, il faut sacrifier un peu cette récolte. Parce que l'objectif, c'est que l'arbre, déjà, il puisse construire une structure en faisant de belles branches fortes et solides pour la suite de sa vie. Donc, moi, personnellement, j'enlèverais toutes les pommes pour vraiment favoriser la croissance de l'arbre et pas oublier que... Pour avoir une bonne structure, c'est important de le tailler régulièrement, donc chaque année. On fait ça, je dirais, à entre novembre et mars, et vraiment de lui créer une structure. Donc, s'il veut laisser quelques pommes éventuellement, mais le risque, c'est que ça épuise l'arbre un peu trop vite et que finalement, il n'ait pas une bonne structure ou même pire qu'une branche casse.
Merci Christophe. On a encore une question. qui nous vient de Germaine de Villeray. Elle nous écrit ceci. Bonjour aux jardinières. Une ou deux limaces ont certainement pondu dans ma petite serre. Les plantons sont presque tous dévorés par de minuscules limaces que j'ai de la peine à repérer, donc à enlever. Faut-il mettre des granulés et sacrifier la culture dans cette serre cette année? Merci pour vos bons conseils et bon week-end.
Ouais, c'est toujours un peu délicat, hein, ces limaces, on a eu de la pluie. Après, dans une serre, si vous arrosez pas trop, parce que vous avez la possibilité de pas trop arroser, ça va permettre justement, sur sol sec, elles vont moins se balader dans la serre s'il fait un peu chaud et puis sec. Après, on peut les ramasser à la main si on les voit. Sinon, il existe aussi des pièges, mais je mettrai pas tellement de granulés. C'est pas top. Donc plutôt des pièges à limaces qu'on peut trouver un peu dans le commerce.
Et puis on entend souvent hein, pour ces limaces, il y a la bière, le café, les coquilles d'œufs. Ça marche ou c'est plutôt
Ça marche assez bien. La bière, ça marche vraiment super bien.
Donc c'est pour les limaces, hein, pas pour le jardinier qui est en dépression.
Ou les matchs de foot. Mais c'est vrai que la bière, ben, on n'aime pas la sacrifier. Mais effectivement, dans ce cas-là, ça peut être une bonne chose. Et les coquilles, ça fonctionne aussi, mais il en faut quand même passablement, hein, suivant la zone à couvrir. Mais voilà, si c'est pour mettre un petit peu autour de certains plants. Mais si j'ai bien compris, il y a quand même un peu toutes les. Je sais pas si c'est des salades ou des plantons. Je sais pas exactement ce que c'est, mais elles sont très friandes. Puis après, il existe aussi des moyens mécaniques avec des collerettes qui évitent aux limaces de venir manger les plantes. Donc ça, c'est aussi une possibilité qu'elle a.
Merci Christophe. On va enchaîner avec une question qui est en rapport avec notre première partie d'émission. Quelle est la meilleure période de l'année pour enlever une haie de thuya? Mon mari a enfin décidé de l'enlever grâce à votre émission, grâce à vos conseils, Christophe.
Oui, alors, une haie de thuya, comme c'est une passion pour moi d'enlever les haies de thuya, je dirais qu'on peut le faire n'importe quand. L'abattage, arrachage de la haie de thuya, il peut se faire vraiment à tout moment. Maintenant, ça va être plutôt la plantation d'une nouvelle haie, je pense à une haie vive, parce que souvent c'est ce qu'on fait, où là, on a deux périodes qui sont bien pour une nouvelle plantation, c'est en automne, c'est celle que je favorise pour que la plante se mette bien en place durant l'hiver, c'est-à-dire que la terre se tasse bien autour des racines et qu'au printemps, elle parte rapidement. Et sinon, si on n'a pas le temps de le faire à l'automne, on peut le faire aussi également au printemps. Mais on devra veiller un petit peu à bien arroser durant la première saison.
Merci beaucoup Christophe pour vos réponses. On se retrouve dans quelques minutes, juste après un peu de musique, pour la suite et la fin des jardinières.
Les jardinières.
Ensemble pour quelques minutes encore dans les jardinières avec une dernière question d'auditeur pour vous, Christophe. On nous a envoyé deux photos par WhatsApp, une avec une chenille toute seule et une autre d'un buisson, apparemment un thuya. Alors, on n'a pas de question associée. On a essayé de la reformuler ensemble, Christophe. Selon vous, c'est cette chenille qui est en train de détruire ce thuya?
Oui, alors c'est pas un thuya, c'est un buis. On a parlé beaucoup de thuya dans l'émission, mais non, ça, c'est un buis et puis... sur l'image, on voit bien cette chenille qui est la fameuse pyrale du buis, qui est un fléau depuis quelques années. Donc, à mon avis, c'est de savoir comment lutter. Donc, je dirais que pour lutter, y a des moyens biologiques. Hein, donc, il y a des pièges à phéromones qui vont créer des confusions au niveau du vol des insectes. Et puis après, quand on a ces chenilles, on peut les ramasser à la main, mais c'est assez fastidieux. Sinon, il existe toujours encore des produits qu'on peut utiliser qui sont vendus dans le commerce. Donc on a des moyens de lutte. Je dirais qu'il faut privilégier les moyens doux et biologiques. Et puis après, il existe des produits un petit peu plus chimique, mais à éviter.
Merci beaucoup Christophe. On rappelle que tous vos conseils seront possibles d'être réécoutés en cours de matinée sur notre site. On rappelle que vous êtes paysagiste au Noirmont et propriétaire de Jardin Conseil. On vous souhaite un bon week-end et puis déjà à la semaine prochaine chez les jardinières, si je ne me trompe pas.
Merci.
Et oui, puisque la semaine prochaine, on restera en votre compagnie, Christophe. On abordera cette fois-ci la phase de transformation de son jardin. Comment bien réussir ce passage? On en saura plus dans une semaine. Et on rappelle que vous pouvez toujours nous faire parvenir vos questions en remplissant le formulaire sur notre site. Bon week-end, Mylène.
Merci, bon week-end à toutes et à tous. Et puis, à samedi prochain.
7h, 8h, les jardinières.